Bonjour, la mise en garde ce matin d'Olivier Véran avant les retours de vacances et face au rebond de l'épidémie de coronavirus. Le risque, dit le ministre de la Santé, c'est que l'eau se remette à bouillir après avoir enlevé doucement le couvercle de la casserole. La mise en garde aussi du Secours catholique. Aujourd'hui, l'association réclame une revalorisation des minima sociaux. Elle craint un rebond de précarité à la rentrée. Sa présidente Véronique Fayet était l'invitée d'Inter ce matin, vous l'entendrez. Qui pour soulever la coupe aux grandes oreilles, le PSG ce soir en finale de la Ligue des champions de football face au Bayern Munich. À Paris, les Champs-Élysées seront masqués et piétons, gare au PV. Et puis à Lisbonne, huis clos, sauf pour 25 VIP triés sur le volet, dont Anne Hidalgo et Nicolas Sarkozy. En France, Jean-Luc Mélenchon ne laisse plus trop de doutes sur son intention d'être le candidat des Insoumis à la présidentielle en 2022. Et puis attention aux grandes marées, notamment si vous partez à la pêche. Reportage en Normandie dans ce journal.
France Inter.
Malgré un léger mieux du côté des statistiques, la France compte 3600 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, donc moins que ces derniers jours. Olivier Véran ne cache pas son inquiétude ce matin dans le journal du dimanche. Nous sommes dans une situation à risque, avertit le ministre de la Santé, qui l'assure, ce coronavirus estival, en quelque sorte, n'est pas moins dangereux que celui qui a tué plus de 30 000 personnes dans le pays ces derniers mois. Une façon, Célia Kiré, de bien préparer les esprits à la rentrée.
Pour le ministre, le risque, c'est que l'eau se remette à bouillir après avoir commencé à enlever le couvercle de la casserole. Voilà pour la formule. Dans les faits, la circulation du virus augmente à nouveau depuis 5 semaines. Au début de l'été, 1% des tests étaient positifs. On est à 3% aujourd'hui. Olivier Véran redit que le virus circule davantage parmi les jeunes, 4 fois plus chez les moins de 40 ans que les plus de 65 ans. Le risque est donc que les jeunes, souvent sans symptômes, contaminent les plus âgés. Par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, il y a près de 200 cas pour 100 000 jeunes de 20 à 40 ans. Or, le ministre précise que le nombre de tests positifs augmente déjà chez les seniors. Le ministre écarte pour le moment l'hypothèse d'un nouveau confinement, mais de nouvelles mesures seront prises rapidement. Elles pourraient être spécifiques, territorialisées. La rentrée sera donc différente du printemps. En tout cas, il n'est pas question de fermer les écoles ou de faire porter un masque aux enfants de moins de 11 ans. Pour le ministre, en assurant l'ouverture des écoles, les risques sont bien inférieurs à ceux que l'on ferait courir aux enfants en les privant d'école pendant des semaine. Enfin, le ministre de la Santé a commandé 13 millions de doses de vaccins contre la grippe. C'est plus que les années précédentes. Le but est de vacciner davantage les personnes fragiles et les soignants.
Et concernant les masques, Olivier Véran assure que l'État aura reconstitué le stock national fin septembre. L'épidémie qui inquiète sur l'île de la Réunion. Le nombre de cas de contagion explose ces derniers jours dans 24 écoles de Saint-Denis. La rentrée initialement prévue le 17 août est reportée au 7 septembre. Rentrée à haut risque, à l'école comme au bureau. Pour s'y consacrer entièrement, l'exécutif a dû faire des choix. Un conseil de défense est prévu mardi sur la crise sanitaire. Exit donc le plan de relance de l'économie qui devait être présenté le jour même et qui sera finalement présenté la semaine suivante. Sauf que la crise économique, elle, s'est installée dans le pays et avec elle la pauvreté. Le Secours catholique tire la sonnette d'alarme. Invitée de la matinale d'Inter ce matin, la présidente de l'association Véronique Fayet s'attend à une rentrée difficile.
On n'a pas encore de chiffres précis, mais on sait que ce sont des milliers de personnes, dont des femmes et beaucoup d'enfants, qui vont être dans des situations dramatiques. Donc on attend des mesures fortes, par exemple, qu'il y ait une revalorisation des minima sociaux, des assurances chômage, etc., de manière à ce que les gens se sentent vraiment protégés. Et ça, ça peut se faire dès le projet de loi de finances 2021. Ça serait une mesure importante, structurelle, forte, un signal fort du gouvernement de répondre à cette demande des associations de revaloriser tous les tout petits revenus, tous les minima sociaux. Il faut que ce plan de relance annoncé, il soit une dimension économique forte, bien évidemment, mais il faut lier l'économique, le social et l'écologique, parce que les trois fonctionnent ensemble, c'est pas l'un après l'autre, c'est pas l'un contre l'autre, et investir dans les questions sociales, c'est vraiment un investissement d'avenir au même titre qu'investir dans l'économie.
Véronique Fayet qui répondait à Laetitia Gaillet ce matin dans le grand entretien d'Inter à 8h20. Entretien complet à retrouver sur franceinter.fr. C'est l'annonce de la journée en politique direction le lac de Châteauneuf-sur-Isère près de Valence dans la Drôme. C'est ici que les Insoumis ont fait leur rentrée cette semaine. Discours de Jean-Luc Mélenchon ce matin en clôture de cette 4e université d'été. Et la grande question c'était, est-ce que le leader charismatique des Insoumis sera candidat en 2022 à la présidentielle. Il s'est prononcé tout à l'heure sur ce point.
Alors moi, qu'est-ce que je ferai? Je prendrai ma décision au mois d'octobre. Auparavant, je consulterai en profondeur chacun de mes amis, car j'ai besoin, pour savoir ce que je dois faire, d'avoir la certitude que les premiers qui me porteraient, le cas échéant, seraient mes camarades. Et que si une autre option se présente entre nous pour assurer la continuité de ces idées, alors qu'on puisse en parler, je n'ai peur de rien.
Voilà, Jean-Luc Mélenchon, tout à l'heure en clôture de l'Université d'été des Insoumis. Laurence Perron, vous avez suivi ce discours fleuve tout à l'heure, plus de 2 heures et 7 déclarations. Donc au bout du bout, elle était très attendue par les militants.
Oui, on s'y attendait un petit peu. Alors ce discours, vous l'avez dit, il était fleuve. Mélenchon s'est fait au départ assez pédagogue vis-à-vis de ces insoumis. Pourquoi il faut se préoccuper de l'eau, des canalisations, des nationalisations, de la planification. Ça a pris pas mal de temps dans son discours. Il a tensé ensuite vertement ses partenaires de gauche, expliquant que les élections municipales n'auraient pas été gagnées sans l'appui et l'apport des insoumis. Il dit « Nous ne sommes pas une avant-garde, nous sommes des éclaireurs, des éclaireuses. L'idée n'est pas de gagner pour gagner, l'idée est de construire un peuple révolutionnaire. Il ne s'agit pas de gagner un congrès, ça c'est pour les socialistes. Il défend son pédigré, oui, il est un ex-trotskiste, socialiste, républicain. Aujourd'hui, il est un insoumis et selon lui, le plus à même de battre Emmanuel Macron. Le président de la République, qu'il n'a pas épargné sur sa gestion de la crise du Covid, notamment, il parle par exemple d'une carte de la mort qui serait une carte sociale. Il réclame toujours des masques gratuits et il a annoncé, appelé le président de la République à constituer une réserve de 100 000 jeunes pour aider à la reprise de l'école et lutter contre le décrochage. Enfin, il s'en prend à la dernière séquence européenne. La France, dit-il, court comme un caniche derrière l'Allemagne et les frugaux, qu'il appelle lui les rapias. Bref, il est de retour sur tous les fronts et il appelle à une rentrée très chaude.
Laurence Perron du service politique d'Inter, rendez-vous donc en octobre pour la décision de Jean-Luc Mélenchon sur cette présidentielle en 2022. France Inter, il est 13h07. L'actualité, c'est aussi le jour J pour le Paris Saint-Germain. Le club de football de la capitale va jouer la première finale de son histoire en Ligue des Champions. Match à huis clos ce soir à 21h. Contre le Bayern Munich depuis Lisbonne. À Paris, les supporters s'attendent à vivre la soirée de leur vie, mais sous haute surveillance, 3000 policiers et gendarmes mobilisés. Et à cause du coronavirus, il n'y a pas de fan zone, mais deux lieux majeurs pour vivre l'événement. Le Parc des Princes, avec une jauge à 5000 spectateurs, un écran géant. Et les Champs-Élysées, avec des mesures drastiques que détaille la porte-parole du ministère de l'Intérieur, Camille Chaise.
Il y a différentes mesures qui sont mises en œuvre. D'abord, la piétonnisation. L'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de véhicule, que ce soit de deux roues ou d'automobile, qui soit sur les Champs-Élysées au même moment que les passants. Et ça nous permet aussi de mettre en place des dispositifs de contrôle et de prévention dans des points particuliers où les supporters pourront arriver, par lesquels ils pourront transiter. Et effectivement, s'ils ne disposent pas de masque, on pourra leur en donner. Ce qui fait qu'à l'intérieur de la zone pour laquelle il y a un arrêté de port du masque obligatoire, les personnes auront systématiquement ce masque, et si ce n'est pas le cas, ils seront verbalisés par les forces de l'ordre présentes en nombre ce soir.
Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur avec Jules de Kiss. Voilà une fête limitée donc et sous surveillance pour les supporters parisiens à Paris, mais le stade de Lisbonne, lui, ne sera pas complètement vide malgré le huis clos. Le PSG a pu inviter 25 VIP, triés sur le volet bien sûr, et qui auront la chance, Emma Sarango, vous êtes en direct de Lisbonne, qui auront la chance de voir le match eux aussi en direct ce soir dans le stade.
Oui, la jauge a été élargie, Alexandra, pour cette finale, puisque pour les quarts et les demi, le PSG et ses adversaires n'avaient droit qu'à 10 invités en tribune. Cette fois, l'UEFA s'est montrée un peu plus généreuse en élargissant donc cette liste à 25 noms. Mais 25 noms, ça reste très peu. Et ce sont des choix éminemment politiques qu'a dû faire le PSG. D'abord, il y a les incontournables du milieu du foot. Noël Le Graët, le président de la Fédération. Nathalie Bois de la Tour, président de la Ligue. Sébastien Bazin, président du groupe Accor, sponsor du PSG et ancien président du club. Mais par exemple, un autre ancien président, Daniel Echter, lui n'a pas été convié et a fait savoir qu'il était plutôt vexé. Du côté des politiques, le maire de Paris, évidemment, Anne Hidalgo, sera présente. Son homologue également de Saint-Germain-en-Laye, où se situe le camp d'entraînement du PSG. Le ministre de l'Éducation et des Sports, désormais Jean-Michel Blanquer. Mais Emmanuel Macron, lui, ne sera pas là. Et c'est un ancien chef de l'État qui sera, lui, par contre, en tribune. Nicolas Sarkozy, grand, grand fan du PSG et surtout proche des propriétaires qatariens. Tous ces invités devront présenter un test Covid négatif à l'entrée de l'Estadio d'Alous. Une liste qui, vous l'aurez remarqué, ne contient que des noms d'officiels, ne seront admis au stade aucun proche des joueurs. Mais les familles de certains sont ici aux abords de Lisbonne, prêts à les retrouver pour célébrer ensemble, on l'espère, la victoire ce soir à l'issue du match.
Et Massa Rongo à Lisbonne pour France Inter. Alors on l'espère, cette victoire, la Ligue des Champions en France, c'est un peu le Graal ou la disette, en tout cas depuis 1993 et la victoire de l'Olympique de Marseille. Il n'y a eu qu'une seule finale ratée pour Monaco en 2004, 16 ans déjà. Alors ce soir, Paris n'est clairement pas favori face à l'ogre bavarois, grand habitué de ce rendez-vous. 11 finales au compteur, 5 victoires et 5 défaites. C'est aussi le club le plus titré d'Allemagne, au point, Sébastien Baer, qu'un musée lui est consacré à Munich. Et vous l'avez visité avec des supporters.
Pour Thorsten, qui a parcouru 170 km pour vivre la finale à Munich, le musée du Bayern était une étape obligée. Séance photo devant le trophée de 2013, la dernière victoire des Bavarois en Ligue des Champions.
Dès que je suis arrivé ici, que j'ai vu toutes les coupes, cela m'a donné directement la chair de poule. Tous les ans, je me repasse la finale de 2013. Ce sont de superbes souvenirs.
Sur ses épaules, Thorsten porte son fils. À 3 ans, le petit garçon connaît déjà par cœur l'hymne bavarois.
FC Bayern.
Au mur sont affichés les portraits des joueurs qui ont marqué l'histoire du Bayern. Papin, Ribéry, Lizarazu sont en bonne place. Le club qui fête ses 120 ans cette année insiste sur ses valeurs familiales, sur l'innovation, le respect de l'adversaire. Cette équipe a une âme, renchérit Marcus.
C'est une fierté d'être supporter du Bayern. Il règne un esprit de famille. Ici, il n'y a pas d'investisseurs qui injectent des millions dans le club. On se contente de dépenser ce que l'on a, ce qui n'est pas le cas de Paris, malheureusement.
Le dernier panneau du musée sonne comme un avertissement pour les futurs adversaires du Bayern. Il rappelle l'exploit de Robert Lewandowski en 2015 contre Wolfsburg. L'attaquant bavarois qui jouera ce soir contre le Paris Saint-Germain avait marqué 5 buts en 9 minutes.
Voilà, ça fait peur, mais tout est possible. Sébastien, PSG Bayern Munich à 21h heure française ce soir, finale de la Ligue des Champions de football. La colère et l'espoir toujours en Biélorussie malgré le ton martial employé hier par le président Alexandre Loukachenko. Pour la deuxième semaine de suite, des manifestations anti-pouvoir sont prévues dans le pays. Celle de Minsk débute en ce moment. Et puis en Lituanie, le pays voisin où s'est réfugié l'opposante Tikhanouskaya, où on se prépare aussi à une journée de mobilisation. Bonjour Éric Biegala.
Bonjour Alexandra.
Envoyé spécial à Vilnius pour France Inter. Une chaîne humaine est prévue tout à l'heure entre la capitale lituanienne et la frontière biélorusse. Et la date, ce 23 août, est particulièrement symbolique, Eric, dans cette région.
Oui, pour toute la région, hein, en Biélorussie bien sûr, mais également pour les pays baltes et même pour l'Ukraine, cette journée du 23 août revêt un symbolisme tout à fait particulier. C'est l'anniversaire en effet d'une des plus grandes chaînes humaines jamais constituées sur 675 kilomètres. C'était en 1989, il y a 31 ans, une chaîne qui avait réuni 2 millions de personnes le long de la frontière orientale des trois pays baltes, et ce pour réclamer l'indépendance de ces pays vis-à-vis d'une URSS déjà moribonde. Alors la chaîne humaine d'aujourd'hui sera plus modeste, elle partira ce soir de la place de la cathédrale de Vilnius, la capitale lituanienne, et s'étendra jusqu'à la frontière biélorusse sur une trentaine de kilomètres, mais elle promet tout de même de réunir pas mal de monde. 20 000 personnes se sont formellement inscrites sur le groupe Facebook organisant l'événement, 35 000 autres envisageaient également d'y participer. À l'origine du projet, la chaîne lituanienne devait en rejoindre une autre, biélorusse, de l'autre côté de la frontière, mais le régime d'Alexandre Loukachenko a pris des mesures coercitives, policières et même militaires pour empêcher tout rassemblement à proximité des frontières occidentales de son pays. En Biélorussie, c'est donc à Minsk, au cœur de la capitale, qu'une fois de plus l'opposition a convoqué son principal rassemblement. La dernière manifestation de ce type, c'était dimanche dernier, elle avait rassemblé au moins 100 000 personnes dans la capitale et au moins autant dans les autres villes du pays. C'était déjà la manifestation la plus importante que la Biélorussie ait jamais connue.
Éric Biegala à Vilnius avec Gilles Gallinaro pour les moyens techniques à l'étranger. En bref, l'inquiétude en Californie, aux États-Unis, sur le front des incendies, notamment dans la région de San Francisco. Déjà plus de 400 000 hectares partis en fumée en une semaine, 5 personnes tuées. L'arrivée d'orages avec la foudre aujourd'hui fait craindre le pire. Les incendies aussi en France, prudence dans les Bouches-du-Rhône. Avec ce duo infernal, chaleur, mistral, par précaution, la préfecture interdit l'accès aux 24 massifs forestiers du département aujourd'hui. Et sur le littoral atlantique, la pêche est belle, les photos aussi. Si mégare aux grandes marées, les récits peuvent être dramatiques, l'océan se déchaîne. En Bretagne, à Saint-Malo, un jeune d'une vingtaine d'années a été emporté par une vague hier. Il est toujours entre la vie et la mort. À Dinard, une baigneuse a été projetée contre une digue. Elle est légèrement blessée. Et Pierre Coquelin, en Normandie, les opérations de sauvetage se multiplient, notamment à cause de la pêche à pied.
Oui, 25 opérations de secours pour des gens isolés par la marée en juin et juillet dans la zone du Cross-Jobourg, en particulier dans la baie du Mont-Saint-Michel. Le lieutenant de vaisseau marine Montjardet de la préfecture maritime.
Ici, ça peut aller jusqu'à 3-4 km d'éloignement de l'eau. L'eau, quand elle va remonter, elle peut aller à une certaine vitesse qui peut encercler les gens qui restent alors isolés sur un terre-plein. Et l'eau arrive tout autour d'eux.
8 à 10 km heure dans la baie du Mont. Et il faut être vigilant tout autour de soi, résume le maréchal des logis chef Le Baillif de la brigade nautique de Granville.
Au remontant, c'est là que les coquillages reviennent le plus à la surface parce qu'ils sentent l'eau de mer qui remonte. Les gens donc restent encore à gratter, un peu comme les machines à sous, quoi. Ça tombe, ils ramassent et puis c'est là qu'ils se font piéger, qu'ils font plus attention, ils sont plus assez vigilants.
Avec son seau et son râteau, Sylvain, venu de Bressé dans le sud de Manche, se montre prudent.
On sait qu'elle est basse à 5h30. Donc pour revenir un peu une demi-heure, un quart d'heure avant.
Avoir un moyen d'appeler les secours et les proches, c'est primordial. S'informer de la météo, des horaires de marée. Sébastien Demaria est administrateur aux affaires maritimes. Il compte sur la responsabilité de chacun.
Un comportement à risque peut en entraîner d'autres. À ce compte-là, c'est si tout le monde s'imite.
Un nouvel épisode de Grande Marée est attendu dans la région à partir du 17 septembre.
Pierre Coquelin, France Bleu Cotentin pour France Inter. La météo, justement, c'est avec Jean-Pierre Hameau de Météo France.
Ciel de traîne quasi généralisé cet après-midi, alternant les éclaircies parfois belles et les passages nuageux lâchant de toutes petites averses. Seules les régions méridionales profiteront d'un bon ensoleillement. En contrepartie, Mistral et Tramontane vont souffler entre 70 et 90 km par heure. Prévoyez des rafales de sud-ouest jusqu'à 70 km par heure à proximité des Caps Corses. Les températures maximales évolueront entre 20 et 27 degrés. Comptez 20 à Brest et Cherbourg, 22 à Lille, 24 à Paris, Nancy et Clermont-Ferrand. On prévoit 25 à Bordeaux, 26 à Lyon et 27 à Toulouse. Ça sera un peu plus chaud en allant vers la Méditerranée avec 30 à Perpignan, 31 à Nîmes et Bastia et 32 à Toulon. Demain, une perturbation va tangenter les côtes de la Manche. Prévoyez un ciel nuageux et quelques gouttes de pluie de la Bretagne à la Normandie et de l'Île-de-France au Nord-Pas-de-Calais. Dans les autres régions, les éclaircies seront larges. L'ensoleillement sera toujours généreux dans le sud. Attention, des orages vont se développer avant la fin de la journée du côté du Mercantour et de la Montagne Corse.